Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans cet entretien qui se nomme Suffragit dessus et qui est un entretien entre Violaine Lochu, Lise Lerichaume et les étudiants de Master Médiation Exposition Critique de l'Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Donc on va commencer déjà premièrement par parler de l'exposition qui a donné lieu à ce workshop avec Violaine et les étudiants. Donc cette exposition, elle donne suite à l'invitation de Nathalie Laforgue, qui n'est autre que la conservatrice de la collection départementale de Seine-Saint-Denis à Paris 8. Donc suite à une ancienne collaboration entre Nathalie Desmet et Nathalie Laforgue dans le passé, Nathalie Laforgue a voulu nous donner une invitation pour exposer donc dans un lieu qui est le Sample à Bagnolet. Et donc le travail de cette exposition, il a commencé par un gros travail de recherche et de fouille sur le site de la collection départementale de Seine-Saint-Denis. Donc pour cela, nous sommes divisés en plusieurs groupes. Et du coup, à chaque moment de cours, on devait présenter les œuvres qu'on avait choisies. On devait en sélectionner quatre par groupe. Et du coup, suite à cela, des différences ont émergé, des ressemblances, des cohortations. Et ça devait être en lien avec les Jeux Olympiques. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est dit qu'on ne voulait pas faire un discours purement littéral sur le corps. Et là, un propos curatorial, entre guillemets, a commencé à émerger.
Oui, voilà le propos curatorial en fait de peupler les plis. C'était de parler du corps, parler des corps des habitants et habitantes de Seine-Saint-Denis, ceux qu'on ne voit pas, ceux qui peuvent être marginalisés, invisibilisés. Ce corps, on l'a pris finalement au sens matérialiste du terme. Voilà, on a voulu l'intégrer dans l'exposition comme un corps social. Et l'idée, c'est que le pli, en fait, représente finalement les interstices, les petits espaces qu'on va retrouver sur ce territoire de la Seine-Saint-Denis qui est davantage précarisé par l'arrivée des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Voilà, on a voulu construire un discours un peu à contre-courant de ce qu'on peut entendre à propos des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris.
Donc le workshop avec Violaine s'est déroulé à Paris 8, puis au Sample à Bagnolet dans l'espace d'exposition. Autour de la vidéo performance de Jo Sisters que Violaine a réalisée le soir du vernissage au Sample. Cette médiation performée, c'est le fruit de la résidence de Violaine à l'espace d'art contemporain Camille Lambert de Juvisy-sur-Orge. Donc on a articulé cette médiation performée autour de la partition présente dans l'espace d'exposition s'appelant Basaidai. Donc on a travaillé de manière collaborative et de manière individuelle, de manière à ce que le soir du vernissage et pendant les permanences de l'exposition, nous puissions dérouler cette médiation performée de manière à présenter donc cette œuvre de manière originale en la rythmant de cris et de coups.
Merci beaucoup Idriss, Jeanne et Garance pour ce premier moment qui nous permet de mieux comprendre ce qui nous réunit aujourd'hui ensemble. Moi, j'aurais une première question à poser à Violaine. Plusieurs de tes œuvres envisagent de donner à entendre ou à faire l'expérience d'expression de colère ou de rage au pluriel, que ce soit celle qui t'anime de façon intime et sensible, ou au contraire qu'elle soit en écho avec des rages collectives que tu portes aussi. Comment est-ce que tu expliquerais cela? Est-ce que tu dirais que tu fais un usage, entre guillemets, de ces affects, et de ces affects puissants, mais dans le sens d'usage pensé par Sarah Ahmed notamment?
Merci beaucoup, Lise, pour cette première question. Merci aux étudiants du master, métier de l'exposition de Paris 8 pour cette invitation qu'ils nous font ce soir avec Lise à dialoguer. Un grand merci à Clélia Barbu qui est aussi présente qu'on n'entendra pas, mais qui est là et qui est à la base, en fait, aussi de cette rencontre avec Nathalie Desmet. Donc maintenant, je vais répondre à ta question, Lise, après avoir, salué tout le monde. Donc en effet, j'aime beaucoup le fait que tu cites Sarah Ahmed, puisqu'en effet, elle parle notamment de la rage queer, le pouvoir transformateur de la rage queer notamment. Et en effet, donc dans mon travail, mes colères et les colères des autres sont souvent des moteurs de création et aussi de transformation. Et il me semble important peut-être de revenir sur la notion de colère. Pour ma part, je dirais que j'ai jamais été autant en colère que dans une période post-traumatique. Et quand on regarde souvent plutôt là d'un point de vue un peu clinique sur ce qu'est la colère, disons qu'elle elle surgit suite souvent à quelque chose de l'ordre de l'indicible qui a été vécu par l'individu, en fait qui est de l'ordre de l'innommable, du traumatisme. Et s'ensuit en fait que souvent la personne va intérioriser ce qu'elle n'a pas compris ou ce qui n'a pas été nommé sous la forme de sentiments assez négatifs que peuvent être la dépression, entre autres, qui est comment on s'annule sa propre puissance d'agir, le ressentiment, la haine, la honte. Et en fait, dans ces périodes post-traumatiques, on a des périodes de « down », donc là, les sentiments dont je viens de parler, et puis des périodes de « up ». Et je dirais que ça, c'est assez accompagné de la colère. Et la colère est saine, parce qu'elle permet d'exprimer, finalement, ce qui n'arrive pas à sortir et ce qui annule toute puissance d'agir et plonge donc dans quelque chose de presque de l'ordre de l'inertie. Pourtant, la colère, elle va devenir, je dirais, il est primordial, en fait, de créer des espaces d'accueil de cette colère, d'expression et d'écoute. Parce que si la colère n'est pas déjà exprimée, elle va ronger de l'intérieur et peut amener à des choses assez fatales. Et en plus, s'il n'y a pas d'endroit d'écoute, du coup, elle peut tourner à l'autodestruction, à la destruction tout court et à la haine. Donc c'est ce qu'on voit, on ne va pas citer l'actualité, mais je pense que c'est une question récurrente, notamment sur le territoire français. Ces colères qui n'ont pas d'espace d'expression, auxquelles on enlève des espaces d'expression de plus en plus, et qui en plus n'ont pas d'écoute. Et je crois que l'art, en tout cas, moi c'est la manière dont je conçois l'art, a une place importante à jouer à cet endroit-là, dans le fait, en tout cas moi ce que j'essaye de faire avec ma pratique artistique, c'est de créer une sorte d'écrin de mes propres colères et aussi des colères des autres, toujours dans un échange, parce que souvent je suis sensible aussi aux colères des autres, je ne me sens pas comme une scientifique qui pense la colère séparée de moi. Et ce qui est intéressant dans l'accueil artistique qui peut se faire sur les colères, c'est qu'il va y avoir la question de la discipline artistique et de la rigueur que nécessite la création d'une forme. Et donc, le fait de devoir être rigoureux sur la création d'une forme va faire qu'on va arriver à remodeler, recomposer les colères pour leur donner une forme qui va prendre, ça peut être une pièce sonore, ça peut être une performance collective, ça peut être une installation, enfin, tout dépend des projets que je réalise. Et donc, il va s'agir de garder le substrat de ces colères tout en leur donnant justement une forme qui puisse être entendable. Et en ça, donc, l'art a quelque chose qui est de l'ordre, même si là j'emprunte un mot peut-être à la psychanalyse, de l'ordre de la sublimation, c'est-à-dire qu'il va avoir un pouvoir de transformation, je crois, parfois de même, j'aime pas trop ce mot, mais presque de résilience, si je peux me permettre, dans cette force d'accueil, d'écoute et de transformation. Et en ça, je voulais évoquer le projet Battle, qui est un projet que j'ai réalisé en 2021 au musée Picasso à Valoris. Et en fait, j'étais invitée à partir de l'œuvre de Picasso. Donc, c'est comme tous les artistes de la Côte d'Azur, il a voulu avoir sa chapelle. Et dans sa chapelle, il a fait La guerre et la paix. C'est très beau d'ailleurs, hein. Mais c'était comment partir de cette œuvre pour lui donner aussi une dimension plus militante, plus féministe et plus proche de ma propre pratique artistique. Et donc j'ai sorti La guerre de son écrin de chapelle pour m'interroger sur la guerre dans Valoris, dans le village lui-même. Qu'est-ce qui se passe en dehors de l'institution muséale ? Et donc je suis allée à la rencontre des habitantes et habitants de Valoris et j'ai commencé à dialoguer avec elles autour de la notion de combat. Et je me suis retrouvée comme ça à recueillir en fait des combats qui peuvent être en lien avec des violences conjugales, qui peuvent être en lien avec des deuils, qui peuvent être en lien avec des maladies, mais aussi avec la guerre réelle, puisque beaucoup d'entre eux, c'est surtout des hommes, étaient des anciens combattants. Des événements, ce qu'on appelait les événements d'Algérie. Donc j'ai recueilli ces paroles qui étaient bouleversantes. Et puis j'en ai, dans un premier temps, fait une pièce sonore qu'on pourra écouter ensuite. Et surtout, après, j'ai pris ces paroles, j'ai essayé de créer en fait une sorte de collectif de prêtres guérisseurs, une sorte de prêtres guérisseurs aux allures assez futuristes, qui se sont mis à vivre en fait dans la chapelle Picasso et qui réceptionnaient les paroles des habitantes et habitants qui étaient sous une forme inversée, parce que se pose la question de la protection aussi, de l'intimité, de l'émotion de ces paroles, et puis qui venaient créer en fait des sortes d'objets sur lesquels il y avait une écriture un peu archétypale, ancienne, on ne savait pas trop, de proto-écriture. Il venait les ingérer et ensuite il les recrachait à un moment donné sous la forme d'un chant, qui était aussi un chant chorégraphié. Et donc là, c'est toute une réflexion sur la place de l'art dans son potentiel politique, féministe et évidemment de care, et l'impact en fait que ça peut avoir aussi sur le réel, puisque finalement, dans cette exposition, sont venues toutes les participants et participants, et ça a été aussi un moment crucial, le moment où les personnes qui nous livrent leurs paroles reviennent et s'investissent, se réapproprient l'espace d'exposition et y emmènent leur famille. Voilà, donc là on peut écouter un extrait de Battle.
J'ai vu une fois où il avait un grand truc où...
J'étais jeune fille, je revenais de l'école.
Où la fille et...
Je suis rentré à pied, je suis retombé sur ce même gars.
Un homme.
Naturellement, vous imaginez ce qu'il voulait. Et puis il y avait une voiture, et là où j'ai pris peur, quand il m'a pris peur le coup, il m'a cogné contre la voiture.
Et après, elle est sortie, après, il l'a pris, après, elle a dit non, non.
Puis, je sais pas, d'une fil en aiguille, à un moment donné, j'ai donné un coup de pied, bien placé.
Puis, tout d'un coup, je ne le vois plus dans le rétro, et puis, ma portière de droite s'ouvre brutalement, et j'avais un pistolet sous la tempe. Je vous dis, j'étais prêt à me défendre. Puis, je me suis dit, non, c'est là que tu risques de l'énerver un peu plus.
Ça m'énerve trop que j'ai envie de le tuer.
Bon, ça va vite, hein. Là, je mets 30 secondes pour l'expliquer. C'est un dixième de seconde, hein. On réfléchit vite, là.
On réagit après. Sur le coup, on s'en rend pas compte. On est dans l'euphorie, on le ramasse, on le met dans le camion.
Oui, ça travaille. Ça travaille. Mais j'ai peut-être eu plus de...
Et c'est après. Après qu'on réagit, qu'on dit ben tiens, un tel, il est mort, parce qu'il y en a quand même eu 30 000. Hein. 30 000 morts et plus de 500 000 blessés.
Le combat, ça a été après, parce que ma mère était vraiment pensait qu'elle n'arriverait jamais à s'en sortir avec nous, jeunes.
Et je me retrouvais maman toute seule, avec plus de papa. Et de m'affirmer aussi en tant que femme.
Bon, quand je me suis séparée, on m'a dit « tu verras, tu arriveras à rien ». Et puis, je me suis débrouillée toute seule.
Et après, on s'aperçoit que quand on se retrouve toute seule, dans la société, célibataire, enfin avec deux enfants, bah, un seul salaire, ça devient très très vite compliqué.
Puis avant, les femmes ne divorçaient pas, elles ne travaillaient pas. Elles ne divorçaient pas, elles étaient des tributaires de leur mari, hein.
Et les enfants, bon bah après évidemment il y avait des conflits avec le père de mes enfants, donc les enfants au bout d'un moment je me suis dit que c'était mieux que ça se termine.
Bah elles sont disputées, moi avec mon frère j'étais à côté de lui et ils ont été mis à courte.
Devant lui je... C'est lui qui avait toujours le dernier mot, et c'est lui qui avait toujours qui discutait. On aurait dit que j'étais bonne à rien.
Et ma mère est devenue toute rouge dans son œil parce qu'il a frappé ma mère.
Et alors, il voulait me jeter par la fenêtre. Je me suis mis à crier au secours et un flic en vélo, comme ça, il est arrivé.
Après, je suis partie demander encore à Laura encore appeler la police.
Et alors, quand il a posé son vélo, il s'est mis à courir, il a monté, il est arrivé, il m'a sauvé.
On vient d'écouter un petit extrait de Battle, la pièce Battle, qui est extrêmement dense, qui rassemble en fait un ensemble de voix, de témoignages. Moi, j'envisage aussi ton travail comme le fait que tu puisses être une porteuse de colère. Et je rapproche ça aussi des pratiques militantes et activistes en particulier, et plus spécifiquement aussi des pratiques militantes et activistes féministes et queer. C'est pas une affirmation de façade dans ton travail, c'est quelque chose qui est profondément ancré, incorporé. Et même si on peut pas tout à fait considérer que tu rejoignes l'image un peu de la femme sandwich, entre guillemets, pour détourner l'expression de Suzanne Buckmorse qui parle de l'homme sandwich, justement. Il y a plusieurs œuvres parmi les tiennes qui sont vraiment innervées de cette approche, dans lesquelles on retrouve cette idée un peu de porteuse de colère, de rage. Est-ce que tu veux bien revenir sur certains éléments ?
Avec plaisir. C'est vrai qu'il y a un recours, en fait, notamment en effet à la pensée queer, très clairement à la pensée féministe, et puis plus récemment postcoloniale. Et avant tout, en fait, ces pensées-là, elles sont rentrées dans ma vie privée, en fait. Alors c'est pour ça que c'est pas du tout une façade, je suis pas en train de surfer sur des notions très à la mode aujourd'hui. C'était déjà, beaucoup de choses étaient déjà présentes dans mon travail il y a 15 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une réappropriation de ces pensées-là, parfois de manière assez vidée, comme si on vidait le substrat de ces pensées qui sont très fortes et qui, pour ma part, m'ont énormément aidée. Donc je pense, par exemple, même en sortant de ces pensées strictes-là, mais à quel point de lire Bourdieu en 2013, fin 2012, juste après mon diplôme, ça m'a permis de comprendre que ce que je venais de vivre pendant 2 ans aux Beaux-Arts de Cergy, c'était pas, il fallait pas que j'en ai honte. En fait, ce que j'avais vécu, c'était de la violence de classe. Parce que, étant fille d'instit, venant de province, ça déclenchait à l'école, chez certaines enseignantes, du rejet et des propos très blessants, et qui n'étaient pas que adressés à moi. On était très nombreux, en fait, à être assez malheureux à Cergy, parce que je pense qu'il y avait vraiment une violence de classe envers certaines personnes. Donc Bourdieu, là-dessus, ce que parler veut dire m'a beaucoup aidée. Ensuite, la pensée queer, en fait, elle est rentrée, je dirais, vraiment dans ma vie de manière active et m'a, je dirais, sauvée à un endroit. À partir de 2018, lorsque j'ai traversé un cancer gynécologique qui a fait que mon corps est sorti de l'hétéronormativité et aussi ma manière d'exister au monde. Et je pense que de lire Paul B. Preciado, Maggie Nelson, ça a été... franchement, des bouées de sauvetage, et ça m'a beaucoup aidée à avoir moins honte et à sortir aussi de la dépression. Donc ces penseurs-là et ces penseuses-là, je leur suis aussi beaucoup reconnaissante de ce qu'ils nous permettent, de comment ils nous permettent de nous réinventer, d'exister sous d'autres formes, et qui nous permettent de nous libérer et de créer des nouvelles alliances. Et la pensée, je dirais... postcolonial avec des guillemets, est rentré dans ma vie environ 4 ans lorsque j'ai rencontré mon mari, mon actuel mari, Spero Djivo, au Bénin. Et en fait, pendant 3 ans, j'ai vécu plus de la moitié du temps au Bénin, à Cotonou, avec lui. Et tout de suite, en fait, je me suis dit qu'il se passait des choses étranges que je ne comprenais pas, parce que c'est pas rien d'être blanche en Afrique de l'Ouest. Ça pose pas du tout des questions de racisme comme se pose d'être noire en Europe. Ça en pose d'autres qui sont très, très en lien avec le colonialisme. Par exemple, la plupart des Béninois sont surpris que je parle fon. J'ai appris le fongbé, enfin, je suis en train d'apprendre, parce qu'aucun blanc, aucun français n'apprend la deuxième langue officielle au Bénin, après le français, c'est le fongbé. Donc ça montre bien quand même comment se comportent les Français, beaucoup de Français expatriés en Afrique. Donc je me suis retrouvée comme ça dans des situations, j'étais très mal à l'aise, et je me suis dit, oulala, il faut que je lise. Et c'est comme ça que je suis allée relire, en fait, Frantz Fanon, Françoise Vergès, entre autres, et puis Malcolm Ferdinand aussi. Et ça m'a aidée à penser ce qui était en train de m'arriver en tant que Française en Afrique, et tout le malaise que je ressentais, il a une histoire. Et en plus, ça m'aide encore aujourd'hui à bien, disons, avec mon mari, Spero a pensé notre amour mixte, parce que Spero est arrivé là en décembre en France, et toute la violence d'État en fait qu'on subit. Encore récemment, on était en résidence en Guyane et notre retour a été différé d'une semaine parce qu'il y a eu un délit de faciès énorme à l'aéroport vis-à-vis du fait qu'il était noir et qu'il y a eu un contrôle de papier qui nous a fait rater l'avion, en gros, pour simplifier les choses. Donc disons que la lecture d'auteurs, d'autrices de cet ordre-là m'aide pour repenser aussi ma propre domination en tant que blanche et aussi de ne pas prendre ce qui arrive sur notre couple, parce que c'est très dur à vivre au sein d'un couple. Beaucoup de choses, quand on arrive sur le territoire français en tant qu'étranger, en fait, contrairement aux propos d'extrême droite, en fait, c'est très très compliqué. Ne serait-ce que administrativement, il faut des mois avant d'obtenir un travail, avoir une situation de dignité, en fait. On demande, les gens, en fait, quand ils arrivent en France, la plupart d'entre eux et elles, ils veulent juste travailler. Donc tout ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais disons que ces pensées-là m'ont beaucoup aidée et nous ont aidés. Et après, donc en effet, ce n'est pas, donc du coup, pour le coup, ces pensées-là, elles rentrent dans ma vie, elles sont rentrées dans ma vie de manière intime. Et après, elles ont une répercussion dans le travail. Elles viennent souvent poser des mots sur déjà quelque chose qui est actif à l'intérieur même du travail. Et après, sur la question féministe, je dirais que c'est en effet dans les thématiques... pratique féministe et militante, c'est en effet dans la thématique d'un ensemble de projets. Donc par exemple, je ne sais pas, dans Trace, dans Dojo Sisters, dans Shout, il y a carrément un emprunt même au cortège, à la manifestation, au cri, à l'histoire du féminisme. Mais je dirais que le féminisme, au-delà de la thématique, il est présent, enfin j'essaie qu'il soit présent au maximum dans ma manière de travailler avec les autres et de penser les interactions. C'est-à-dire de penser que le privé est politique, de penser que il faut créer des espaces à tout prix de dialogue pour assouvir les conflits et penser toujours l'endroit où on est dominant, parce que ça serait complètement naïf et violent de penser qu'on ne l'est pas et que je ne le suis pas. Donc j'essaie au maximum de créer au sein de mes équipes des espaces de dialogue où on échange aussi sur ce qu'on vit bien, sur ce qu'on vit mal. Et donc penser la création comme un laboratoire éthique et féministe sur cet angle de vue-là. Et ensuite, donc, ce qui nourrit aussi beaucoup de mes performances, c'est les entre-deux. C'est-à-dire, ce sont toutes les discussions informelles, notamment dans la dernière performance 8 Feet Dance, qui a été présentée à la Pop en mars dernier, qui porte sur une communauté de femmes poulpes vivant dans les abysses, ayant survécu à un fort réchauffement climatique, qui donne à voir, en fait, la puissance de la sororité. Et cette sororité, elle s'est construite, elle est visible au plateau, beaucoup de gens m'en ont fait part, mais elle s'est construite dans les un an de résidence, des résidences disparates qu'on a eues avec les trois autres performeuses et beaucoup de discussions qu'on a vues sur notre vie intime, donc sur les rapports dans la famille, sur la violence qu'on subit au sein du milieu artistique, sur Cathy, par exemple, Cathy Gringilli qui a 62 ans, la manière en tant que vieille chanteuse, elle a disparu, elle est invisibilisée. Donc toutes nos discussions ont nourri notre sororité qui est effective au plateau. Et ensuite, donc dans vraiment le travail effectif, notamment de performance collective, là je parlerai de superformer qui va justement emprunter à des manières de faire féministes, notamment au groupe de parole. Donc superformer, c'est un projet qui a été réalisé en 2017 à la galerie de Noisy-le-Sec sur une invitation de Émilie Renard et Vanessa Desclos. Et donc pendant un an, il s'est agi de manière hebdomadaire de travailler avec la Maison des Solidarités de Noisy, autant donc les assistantes sociales que les personnes entre guillemets en difficulté sociale. Et donc j'ai créé des groupes de parole hebdomadaires où à la fois donc les adhérents, les travailleurs sociaux et le personnel du centre d'art et moi-même, on était toutes invitées en fait à venir avec des questions ou des pratiques à partager. Et à partir de nos échanges, on a créé des performances qui traitent de l'héroïsme au quotidien. Et pour beaucoup d'entre nous, ça a été un endroit aussi d'empowerment, c'est-à-dire de réappropriation de sa propre puissance d'agir. Par exemple, je ne sais pas, il y a Loubiana un jour qui est arrivée, qui s'était coupé les cheveux au bout d'un an d'atelier, qui est arrivée les cheveux ras et qui a dit « En fait, hier, j'ai monté mon entreprise de gâteaux. » Alors que c'est une femme qui sortait de la prostitution, qui arrivait... Enfin bref, il y a des impacts vraiment dans nos vies concrètes. Et après, pour nous, donc je dirais pour plutôt la partie artistique, c'était une manière aussi de se dépêtrer, de répondre de manière oblique aussi à un contexte de commande qui était fait par le département pour respecter le cahier des charges qui était quand même amener la culture auprès de personnes isolées de la culture, un truc du genre. Toujours cette idée qu'il faut amener, sensibiliser les gens éloignés dans le territoire à la culture. Donc j'ai envie de dire, ces personnes sont très cultivées, beaucoup plus que moi à des endroits. C'est juste pas la culture officielle blanche, occidentale, patriarcale, mais elles ont une culture. Et en plus, elles sont hyper ravies d'y avoir accès. Et donc c'était une manière de contourner ça, c'est-à-dire que plutôt que moi je me suis sentie à un endroit, mais très souvent on est en tant qu'artiste un peu instrumentalisé, là c'était de retourner la chose pour penser aussi nos relations et cette hiérarchie qui est induite par le dispositif même de subvention et d'invitation. Voilà pour répondre de manière un peu longue à cette question.
Et ce rapport que tu as justement d'envisager aussi dans la mise en œuvre de ton travail concrète auprès des personnes, c'est un rapport de soins, hein, c'est un mot que tu as utilisé, donc je le reprends, qui permet en fait petit à petit de rendre visible ou manifeste des colères, des affects, des émotions puissantes aussi, et qui parvient à le faire de façon qui n'est pas dissonante à mon sens. En tout cas, c'est le regard que j'ai moi sur ton travail, je pense qu'on est plusieurs peut-être à penser ça. Ma question suivante, c'était de savoir comment est-ce que tu faisais pour rester justement au plus juste de la parole, des voix, des personnes, des expériences de personnes qui sont autrement assez souvent silenciées. Tu parlais de personnes qui étaient considérées comme n'étant pas proches de la culture et qui sont aussi précisément ces personnes qui peuplent les plis dont vous avez parlé tout à l'heure en présentation, en introduction un petit peu de cet entretien, et puis ces personnes qui ont habité votre exposition et l'exposition telle que vous l'avez pensée. Donc comment est-ce que toi, tu parviens justement à faire entendre ces voix de façon juste, sans accaparer la parole aussi?
Je crois que j'y répondrai là aussi de manière indirecte en reprenant un mot que j'aime beaucoup, que tu as utilisé, c'est la dissonance. Et je pense que j'aime beaucoup la dissonance et que c'est même un des piliers du travail. Parce que la dissonance, elle est au cœur de beaucoup de pièces sonores et aussi de beaucoup de performances, c'est-à-dire qu'elle permet de relier, de mettre ensemble des voix qui, a priori, ne vont pas ensemble. Et j'essaye toujours, dans les pièces sonores ou dans les performances, de garder la dissonance, parce que je la trouve très belle et je trouve qu'elle parvient à... C'est-à-dire de ne pas rentrer dans un modèle musical, par exemple, de l'ordre de l'harmonie ou de la clarté, mais de garder quelque chose de dissonant, parce que ça garde la complexité des échanges et du réel. Et pour ça, je trouvais que c'était pas mal de répondre à ta question en parlant d'un chorus. Un chorus, c'est une installation sonore qui a été réalisée en 2019 au MAC Lyon, sur une invitation de Mathieu Lelièvre au sein de l'exposition collective Storytelling. Et en fait, donc, c'est une installation qui interroge la notion de cœur et de révolution, qui travaille notre époque en creux, comme difficulté et comme manque, et notamment s'intéresse au projet européen, puisqu'il y a quand même un peu un désenchantement sur ce projet européen. Aussi, donc, on l'a vu avec le Brexit, avec l'actuelle montée des partis nationalistes, c'est assez terrible. Et puis en même temps, parallèlement à ça, des explosions de protestations, d'émeutes, on appelle ça ici des émeutes, et en fait qui n'aboutissent, ces protestations, on peut penser aux gilets jaunes, on peut penser aux émeutes de l'été 2023, c'est en France, ces manifestations de colère et ces protestations, c'est comme elles s'évanouissaient, enfin, parce qu'elles sont, ce qu'on disait tout à l'heure, elles sont pas peut-être accueillies, entendues, et en fait c'est comme s'il y avait une difficulté à faire une voix commune, à créer une voix collective, parce qu'en fait on fait tout pour que cette voix collective aussi ne se crée pas. Et en fait, un chorus, du coup, se porte vraiment sur cette question de l'idée d'une révolution collective européenne, bon, d'un point de vue évidemment hyper poétique. Et donc, je suis allée à la rencontre d'une quinzaine de personnes européennes à qui j'ai demandé de me transmettre un chant révolutionnaire dans leur langue maternelle. Et ensuite, dans la façon de composer la pièce sonore et la mise en espace de ces voix au sein de l'installation Un Chorus, il s'agissait en fait de travailler la singularité et la pluralité qui sont propres au cœur vocal. Et donc à des moments, on entend une voix, on sent qu'elle est dans sa propre tessiture, qu'elle a son propre rythme, et elle semble complètement out et dans un truc hyper individuel. Et en même temps, à d'autres endroits, bien que ces voix ne soient pas accordées, tout à coup, paf, elles vont comme s'assembler autour d'un squelette spectral, fantomatique, d'une sorte de cantus firmus, archétypales, enfin quelque chose d'assez mystérieux, et qui, elles vont s'assembler par leur souffle, par leur accord, par leur émotion, et vont former une voix chorale. Donc une voix chorale qui respecte toutes ces pluralités, qui ne cherche pas à les résoudre en quelque chose de beau ou d'harmonieux, et qui va justement garder cette dissonance, cette quelque chose qui est l'ordre de la cacophonie, mais qui est pourtant chorale, et qu'on peut entendre comme une sorte d'écho, peut-être à un chant pré-révolutionnaire. Et donc on va écouter à présent un extrait de la pièce sonore Unchorus.
Terre sans doux ou ça, dépaisons-le. Car le bonté qui sont guérades, que la plaise innocente,
Donc, avant de poser cette question, je voulais remercier Emma Mercier pour l'élaboration de cette dernière. Lise, tu as curaté l'exposition « Main gantée, pied botté » qui a donné lieu à une publication éponyme dans le journal « Sans niveau ni maître », journal du cabinet du livre d'artiste. Dans celle-ci, tu questionnes les représentations de femmes fédérées en armée ou collectifs rebelles, souvent enfermées dans des iconographies bien définies. Tu évoques le travail « To become two » d'Alex Martinero, que tu qualifies d'exemplaire d'une volonté de pérenniser, par une pratique féministe collective. La création de supports, outils ou leviers utiles à l'invention des représentations émancipatrices de corps collectifs féminins. Violaine, dirais-tu que ton travail sur Dojo Sister est animé par la même volonté ?
Merci pour cette question. Du coup, je vais peut-être déjà rappeler ce qu'est Dojo Sisters, parce que ça fait deux fois qu'on en parle. Donc Dojo Sisters, en fait, c'est une vidéo performance qui est en ce moment présentée à l'école et espace d'art contemporain, d'art contemporain Camille Lambert à Juvisy-sur-Orge, dont la commissaire est Morgane Prigent, qu'on salue d'ailleurs. Et donc cette vidéo performance, elle donne à voir un collectif de femmes combattantes vocales. C'est une fiction qui a été largement inspirée par le suffragitsu, c'est-à-dire la pratique du jujitsu par les suffragettes à Londres dans les années 30, et aussi une réflexion sur la voix comme arme d'autodéfense au sein de plusieurs groupes féministes. Donc, en effet, par rapport à la question que tu me posais, Idriss, en effet, ici, on voit qu'il y a une référence à l'histoire des luttes féministes, puis dans les références qui m'ont nourrie, en tout cas les références aussi théoriques, puisque là, Elsa Dorlin, La philosophie de la violence, faisait partie des ouvrages qui m'ont beaucoup nourrie sur le projet. Mais en même temps, c'est nourri de plein d'autres choses. Donc notamment, là je parlais d'une recherche théorique, mais aussi une recherche, comme toujours dans le travail, qui est avant tout empirique. J'ai passé beaucoup de temps avec des combattants et combattantes à Juvisy et à Tismons, au sein de clubs sportifs, donc de judo, d'aïkido, de viedvodao, de kwenkido. Et j'ai pu donc échanger avec elles, regarder la manière dont ils s'échauffaient, dont ils s'entraînaient, et aussi pourquoi ils en étaient arrivés à pratiquer ces arts martiaux. Et en fait, du coup, toute la partie, on va dire, gestuelle, chorégraphique, cri, et aussi la dimension rituelle de Dojo Sisters, de la vidéo performance Dojo Sisters, est issue beaucoup de ce travail de terrain. Ensuite, quelque chose d'autre qui a nourri le projet, c'est, disons, quand même un recours au code de beauté esthétique japonais ancien, puisque ces performeuses, ces combattantes vocales, elles ont la particularité d'avoir un maquillage assez japonisant, donc déjà sur les yeux, mais surtout au niveau de la bouche. Elles ont l'intérieur de la bouche entièrement noir, notamment les dents peintes. Et ici, donc pourquoi le Japon ? Parce que la plupart des arts martiaux viennent d'Asie, beaucoup d'entre eux. Le karaté, qui a été franchement l'art martial qui m'a le plus influencé, vient directement du Japon. Et en fait, les geishas et même les femmes en général, jusque dans les années 40-50 au Japon, se peignaient les dents en noir. C'était un critère de beauté. Donc je reprends cet élément-là dans Dojo Sisters. Et puis, on a carrément l'intérieur de la bouche qui est peint. Bon, là, c'est plutôt un petit clin d'œil à beaucoup de mes performances où je me peins l'intérieur de la bouche, que ce soit dans Battle ou dans Crab Chorus. Et pour moi, parce que la bouche est le lieu sacré, et le lieu d'où sort le verbe, et aussi est le lieu, on va dire, le masque. Puisque avec ma voix, c'est comme si je pouvais me transformer en un quart de seconde, je deviens une tourterelle. Donc du coup, c'est toute une réflexion sur la bisque et la bouche comme masque. Ensuite, dans les choses qui m'ont beaucoup influencée sur Dojo Sisters, c'est évidemment la référence à la science-fiction qui est un peu une idée fixe. Et bon, par exemple, par l'usage de matériaux tels que le papier isolant qui peut faire penser, je ne sais pas moi, à Solaris de Tarkovsky, ou encore au cinéma de Jodorowsky, par tout l'effet assez surréaliste dans le mode de composition du film, par l'aspect cérémoniel. On peut penser à La Montagne Sacrée, qui est un des grands films, qui est une des œuvres qui me nourrit toujours. Et donc, je dirais que par rapport à ta question, il s'agit moins dans mon travail de pérenniser des pratiques militantes, ou en tout cas, évidemment, indirectement, on en vient à en parler lorsqu'on parle de mon travail, parce que ça fait partie des éléments majeurs qui nourrissent en tout cas ce projet-là. Mais dans leur association avec plein d'autres éléments que je viens de citer, on voit que c'est un déplacement poétique et fictionnel des pratiques militantes féministes, à la différence donc de Alex Martini-Rowe. Je pense qu'on... qui, elle, je dirais, est plus dans une volonté de conserver, de rendre compte vraiment de ces histoires-là. Enfin, voilà, c'est ma manière de répondre peut-être en biais à ta question.
Effectivement, il y a une approche qui est distincte dans vos pratiques artistiques, sur la manière dont vous mobilisez justement des éléments de référence, etc. Et en préparant cet entretien, tu me mentionnais qu'en fait tu as découvert l'existence d'un jeu de plateau, un jeu de société qui s'appelle Suffragetto, grâce à une conversation avec Vanessa Desclos, que tu as évoqué tout à l'heure, et qui est une personne avec laquelle tu échanges régulièrement. Tu veux bien revenir sur le sens qu'il y a pour toi à évoquer de façon large, mais aussi très spécifiquement dans l'exposition de Juvisy à Camille Lambert, un jeu de stratégie féministe, en fait. Précisément ce Suffragetto et dans l'absolu un jeu de stratégie féministe.
Mmh. Bah alors, je vais d'abord rappeler ce qu'est le Suffragetto, parce que c'est pas encore très connu comme jeu. Alors, le Suffragetto, c'est un jeu de société qui a été conçu par les suffragettes, qui se présente sous la forme d'un tapis de jeu sur lequel évoluent des pions verts qui symbolisent les suffragettes et des pions bleus qui sont en fait représentent les policiers. Et en fait, c'est un jeu stratégique où il s'agit d'occuper la base de son adversaire tout en défendant son propre foyer. Donc, en l'occurrence, la base de l'adversaire, c'est la chambre des communes, là où elles vont obtenir le droit de vote, avant nous d'ailleurs, les Anglaises. Chez nous, c'est quand même tard, hein, 1944 en France. Et puis, la base qu'elles ont à défendre, bah, c'est le Albert Hall, là où elles se réunissaient en fait pour avoir leur réunion militante. Et donc, ce jeu, il a été quand même une manière pour elles de divulguer en fait leur pensée. Et puis, auprès de femmes justement qui étaient plutôt peut-être au foyer, et d'enfants. Et c'est aussi expérimenter une autre forme alternative de résistance qui soit plus dans le terrain domestique. Donc je trouvais ça très intéressant. Et ça a inspiré en effet largement le projet Dojo, donc qui est cette exposition qui est actuellement à Camille Lambert. Alors, parce que tout, que ça soit Dojo Sisters, donc la vidéo performance, et Dojo, l'exposition, donc aujourd'hui c'est une installation sonore aussi, donc tout gravite autour d'un tatami. Et ce tatami, son esthétique, c'est à la fois une référence, donc évidemment, aux arts martiaux, en particulier au karaté, et au jeu, à un plateau de jeu, à un damier. Alors, dans la vidéo performance, on voit les Dojo Sisters, donc ce groupe de combattantes vocales, au fur et à mesure retournent le tatami. Parce qu'au début, il est tout vert, et puis au fur et à mesure, il y a des dalles qui se retournent, et il se retrouve comme un damier à la fin, un damier rose. Et ce tatami, il est toujours présent aujourd'hui dans l'exposition. C'est l'installation sonore, elle est là-dessus. Et donc, j'ai gardé une configuration du tatami qui fasse penser au damier. Et dessus avancent des sortes de pions, des pions qui sont peints aux couleurs des quatre combattantes vocales, à savoir mauve, rose, anis et vermonte. Donc, il y a ces pions qui sont, c'est comme une partie de jeu amorcée. À l'intérieur de ces pions, donc, qui sont symbolisés par des caisses de bois, on a quatre enceintes. De ces enceintes est diffusée une pièce sonore qui a été composée à partir de sons que j'ai collectés au sein des clubs sportifs de Juvisy et d'Atis-Mons. Donc, ce sont des sons de chute, de coups, de cris, des sons qu'on entend en gros sur un tatami. Et c'est spécialisé sur quatre points. Donc, le visiteur est invité à rentrer dans l'installation sonore, à se déchausser, c'est-à-dire à se mettre dans une condition d'écoute particulière quand même, puisqu'il va aller ensuite s'asseoir, voire s'allonger sur le tatami, et écouter cette pièce sonore qui lui vient de gauche, de droite, de devant, de derrière. Parce que lorsqu'on parle d'une spatialisation de pièces sonores, c'est-à-dire que chaque enceinte, c'est une piste sonore différente. Donc, c'est vraiment l'idée qui s'est mise en espace. Et donc, ce damier, tatami, dojo, proche du suffragetto, il oblige le spectateur, quelque part, à s'impliquer, à faire part de la partie amorcée. Et après... Donc on voit qu'il y a une référence au suffragetto dans son aspect ludique et esthétique, mais il y a aussi son objectif, comme je disais, militant qui m'intéressait. Et en ça, ça résonne avec la manière dont je pense la performance dans sa transmission. C'est-à-dire que lorsque je vais transmettre... la manière que j'ai de travailler, je vais souvent, ça, comme je disais sur Superformer, ça a des impacts aussi à l'intérieur même des personnes qui sont sensibilisées à ces pratiques-là, et puis sur moi-même d'ailleurs. Et c'est une réflexion plus large sur qu'est-ce que le jeu. Le jeu, je crois, en tout cas en tant qu'artiste performeuse, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup et qui est pour moi éminemment sérieux. Parce qu'en fait, quand on joue un personnage, en l'occurrence là, lorsque je joue une Dojo Sisters, en fait je deviens Dojo Sisters. C'est-à-dire que à force de crier, à force de me renseigner, enfin d'imaginer ces personnages, de m'imprégner de ces personnages, et on le voit aussi avec les trois autres performeuses dont c'est pas le projet mais qui sont rentrées dans le projet au fur et à mesure, on est devenu en fait. On est devenu Dojo Sisters. C'est-à-dire que pour que un geste soit juste, que ce soit d'ailleurs en chant ou en théâtre ou en danse, et pour qu'une intention soit claire, je crois que lorsqu'on joue, il faut devenir. Il faut vraiment aller chercher ses ressources intérieures et intimes pour venir sortir un personnage qui est juste, qui à la fois est habité par ce qui nous concerne, mais surtout garder cette distance, parce que le jeu, c'est beaucoup de règles. Donc garder la juste distance pour arriver à incarner et à jouer au plus juste ces personnages. Donc du coup, par rapport à ce que je disais sur Superformer tout à l'heure, ces performances collectives avec lors du projet à Noisy-le-Sec, on voit que ça a pu être dans certaines vies. Donc par exemple aussi, il y avait Mario qui était bègue, qui était aussi légèrement autiste et qui n'arrivait pas à... dans l'espace public. Et en fait, au bout d'un an de groupe de parole et de mise en confiance par ce projet, il a réussi à performer super bien à la fin, à dire du texte. Et dans sa vie même familiale et professionnelle, il en a senti les effets. Donc c'est intéressant de voir que le jeu, en fait, on peut se dire, c'est un espace à part du réel. Et en même temps, très clairement, et c'est ce qu'avaient compris les suffragettes, c'est que ça, vraiment, ça peut être avoir une porosité avec la vie, qui est une porosité féconde, et que ça peut être un outil d'émancipation également.
Pour revenir sur ce que tu disais, il y a effectivement cette dimension aussi de projection par le jeu et qui permet d'anticiper, d'envisager, d'imaginer, de préfigurer aussi une position dans l'espace qui soit symbolique ou au réel. Et puis tu évoquais les tatamis qui composent justement l'installation de dojo et ces dalles qu'on retourne. Et ce qui me fait forcément et fortement penser aussi à ces dalles qu'on retrouve dans les grands ensembles, qui sont des éléments qui ont nourri votre réflexion sur l'exposition Peupler les plis aussi, hein, ces espaces justement immenses, inhabitables par les personnes qui y vivent. Comment est-ce que toi, justement, cette manière de t'approprier ce jeu, en tout cas de le faire tien, de quelle façon est-ce que ça résonne avec une lutte pour l'occupation de ces espaces qu'on appelle parfois communs, publics, partagés, avec les noms qui changent aussi selon les époques. Mais comment est-ce que toi, tu parviens à rendre compte, en fait, justement, de ce rapport de lutte pour ces occupations de ces espaces?
Eh bien, je pense que de mettre en avant le suffragetto, des pratiques militantes et cette histoire du féminisme, ça a été pour moi une manière oblique, pour reprendre le mot toujours de Sarah Ahmed, j'aime beaucoup ce mot, une manière oblique de répondre à un contexte d'invitation que d'ailleurs vous avez vécu aussi dans Peupler les plis, c'est-à-dire que Morgane Prigent, à la base, m'a invitée à faire un projet à Camille Lambert en lien avec le sport, parce qu'évidemment, il y a les Jeux Olympiques cette année. Il faut avoir bien conscience que les lieux d'art dépendent de subventions du département, de la région, de l'État, et que cette année, il y a eu beaucoup de subventions en lien avec le sport et les JO, dont vous avez notamment vous bénéficié. Et donc, en l'occurrence, nous, finalement, Morgane n'a pas utilisé, n'a pas eu recours finalement à ces subventions avec les JO, mais elle pensait le faire. Et donc, elle m'a invitée à créer quelque chose en lien avec le sport. Et je me suis dit, oulala, comment je vais répondre à ça, alors qu'on sait toute la violence sociale, économique, voire physique, qu'ont les JO actuellement sur les habitants d'Île-de-France et de Seine-Saint-Denis en particulier. On est actuellement à Montreuil, ville où j'habite depuis maintenant 15 ans. Donc du coup, on subit ça, moi à Montreuil, que tout à l'heure j'étais à Saint-Ouen, j'imagine, et vous étudiez à Saint-Denis, donc on voit vraiment les effets sur l'espace public. Donc comment répondre à ce cadre d'invitation qui est hyper bienveillant et dans des conditions de travail franchement hyper bonnes, c'est-à-dire que Morgane Prigent, c'est vraiment, on peut dire, une curatrice au sens noble du terme, qui va faire attention aux modalités d'accueil, qui va faire attention à la partie économique du projet et qui va permettre justement, comme beaucoup de centres d'art de banlieue qu'on remercie et qu'on salue ici, qui mettent tout en œuvre pour que justement les artistes puissent vraiment avoir un contexte de développement de projet idéal. En tout cas, comment répondre à cette invitation et donc de faire recours à l'histoire féministe et au suffragetto, ça a été une manière pour moi d'y répondre en m'intéressant donc dans le sport justement à la notion de combat, à la notion d'empowerment, à la notion de rituel également qu'on retrouve dans les arts martiaux. Donc c'est comme ça que très rapidement, par rapport aux intérêts par rapport aux problématiques qui sont présentes dans ma pratique en général, je me suis dirigée vers les arts martiaux et donc de réinvestir le centre d'art comme un dojo et comme un lieu de lutte, c'est repolitiser aussi le centre d'art et l'espace public et de répondre, une réponse artistique et poétique à un contexte d'invitation ambivalent sous certains aspects.
Oui, déjà, moi, de base, le projet, il a été aussi amené par la séparation, encore une fois, de plusieurs groupes au second semestre, cette fois-ci mené par Cléa Barbu. Et du coup, on a été séparés en plusieurs groupes et il y a eu un groupe qui s'occupait, entre guillemets, de la performance, plus le workshop qui allait être mis en place avec Violaine et donc avec Garance. On a fait les recherches, de la veille sur le travail de Violaine, etc. Et c'est vrai que c'est, moi en tout cas, au premier abord, ça a été un travail qui m'a paru complexe, avec des références dont, entre guillemets, je ne pensais pas avoir les clés. Enfin, c'est plutôt quelque chose de compliqué pour moi. Et au fur et à mesure, tout s'est décousu, mais surtout ensuite avec l'intervention de Violaine qui nous a présenté son travail, etc. Comme j'avais pu le ressentir, le travail, il était intense, mais il était aussi également intense par le workshop. Parce qu'en fait, après le lycée, on est vachement amené à, certes, faire les travaux de groupe, mais les travaux de groupe par la réflexion qui, en fait, nous individualise. Et là, ça faisait longtemps que j'avais pas fait corps avec notre corps physique et du coup avec le groupe, et c'était quelque chose d'assez intense mais en même temps doux, parce qu'on utilisait notre voix, il y avait quelque chose qui résonnait et du coup ça c'était assez intéressant, et c'était quelque chose que j'avais pas ressenti depuis longtemps. Et après, par la suite, c'était moi aussi quelque chose qui intervient également dans mon travail, et sur notamment le travail d'Andrea Fraser et de toutes ses performances sur l'individualisation du médiateur et en même temps, entre guillemets, de la question aussi du travail. Du coup, ça a vachement résonné avec mon travail de recherche. Et entre guillemets, la pratique et tous ces workshops aussi ont pu faire résonner les deux et je pense qu'on a apporté plus de matière, entre guillemets, aux propos écrits et ça a aussi fait du bien. Voilà.
Pareil, je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport aux recherches. Moi aussi, ça m'a nourri dans mes réflexions par rapport aux mémoires de master. Et du coup, je voulais aussi rebondir donc, sur la porosité peut-être entre la position de médiateur, la fictionnalisation et la fictionnalisation du Dojo Tellers, et que finalement, ce workshop, j'ai l'impression qu'il nous a chacune apporté en termes de transmission des affects, mais pas tellement... de plutôt, en fait, nous donner des clés de comment se réapproprier un cri, un corps... et donc surtout, enfin particulièrement avec cette thématique des Jeux Olympiques et ce climat politique, j'ai l'impression que ça nous a aussi, enfin autrement qu'à travers un propos curatorial, ça nous a donné des clés en fait de comment peut-être réenvisager la posture du médiateur qui peut être assez classique, comme tu disais, invisibilisé dans l'espace d'exposition, et en fait réenvisager sa pratique, mais plus de manière militante, en réenvisageant une corporéité et une physique et une colère en fait de la voix.
Moi j'ai rejoint Garance et Idriss un peu en amont. À la base j'étais plutôt dans les groupes rédaction et communication et médiation, j'avais pas prévu de faire un workshop dans le cadre de la création de cette exposition. Et en vrai, j'étais très contente de faire cette expérience de médiation performée que je ne connaissais pas avant. J'avais jamais entendu parler de médiation performée. Je ne savais pas qu'on pouvait performer. J'avais pas cette vision rassemblatrice à la fois de la performance comme acte artistique et de la médiation comme acte de travail en fait, et c'est vrai que les séances étaient très intenses avec Violaine, elles nous ont beaucoup apporté, notamment comme tu l'expliquais au début lorsque tu parlais de la création d'endroits d'écoute et d'expression, c'est vrai que je l'ai très vite ressenti, c'était très très fort, et c'était vraiment un espace d'expression supplémentaire qu'on pouvait pratiquer dans le cadre universitaire, et je trouvais ça assez incroyable. Et puis il y a eu un moment très beau où je pense que c'était pendant la deuxième séance de workshop où on a fait des exercices vocaux ensemble, et l'idée c'était que justement nos individualités dissonnent, et puis finalement il y a eu quelque chose de très joli qui s'est passé, que tu appelles des harmoniques, que je ne connaissais pas non plus, où en fait nos voix ont fait chorale et elles sont devenues plurielles. Voilà, c'était un très très beau moment. Donc merci pour ça.
Oh, merci à vous, ça me touche beaucoup. C'est super d'avoir vos retours. Donc oui, Dojo Tellers, en fait, comme on l'a dit, hein, c'était vraiment la création d'une médiation performée autour d'une partition qui était présentée dans l'exposition collective Peupler les plis, et où chacun d'entre vous venait performer son texte de médiation sur la partition Basaidai. Et donc ça venait, comme tu l'avais dit, Garance, il y avait des cris et des gestes qui venaient entrecouper le discours de médiation. Et c'est vrai que c'est... le deuxième projet que je fais comme ça, où j'écris des performances pour les médiateurs, parce que malheureusement, souvent les médiateurs, ce sont des personnes, les médiatrices, ce sont souvent des personnes comme vous, très, très impliquées dans une recherche artistique, et elles se retrouvent en fait un peu, dans certains contextes, à faire, bon, c'était pas le cas de votre expo, mais à faire un peu les perroquets, à répéter le même discours tous les jours. Et donc j'avais déjà commencé à penser cette histoire de médiation performée avec Wunderka, qui est une performance qu'ont réalisé les médiateurs et médiatrices du fonds Hélène et Édouard Leclerc en 2019, où voilà, elle venait, notamment, il y en a un, c'était de venir grimacer, de venir tirer la langue lorsqu'il citait tous les donateurs, par exemple. Donc, c'est-à-dire comment, justement, dans un esprit un peu carnavalesque, on retourne la chose et on dit, en fait, on n'est pas que les gentils qui viennent vous présenter l'exposition, on a aussi, on vit, nous, en tout cas, au fond, Édouard et Hélène Leclerc, on vit, nous aussi, des conditions de travail difficiles. Depuis 3 mois, on répète la même chose. On travaille 8 heures d'affilée avec même pas une chaise pour s'asseoir. Alors aujourd'hui, on va retourner la chose et c'est nous qui allons performer et transmettre toute peut-être l'absurdité, les frustrations et la colère qu'il peut y avoir parfois dans ce métier qui, je trouve, pas assez valorisé. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour vos retours.
Pour revenir à cette question de la transmission, vous avez utilisé ce terme successivement. Alors, je ne sais pas si c'était concerté, mais en tout cas, je crois que Garance a été la première à l'utiliser tout à l'heure, qui est un terme que je trouve assez juste, puisqu'il permet d'évoquer à la fois les situations de transmission de médiation, mais aussi celles de l'apprentissage ou de la... comment dire, l'approche d'une pratique, pour le dire comme ça. Pour revenir autour de cette importance de la transmission, tu évoquais avec moi le fait qu'il y a plusieurs pratiques qui ne peuvent pas se transmettre par l'écrit, par les livres, qui sont des ressources auxquelles tu te réfères régulièrement, hein, tu le mentionnais tout à l'heure, mais qui passent nécessairement par le fait de côtoyer, d'être en présence et avec les corps aussi de ceux et celles qui maîtrisent justement certaines pratiques. C'est le cas dans le karaté, et donc tu en as fait l'expérience un peu approfondie justement à Juvisy. C'est le cas également avec les pratiques vocales, et tu me parlais de l'importance de Martina Catella, notamment pour toi, qui est, je pense, une des personnes, si ce n'est la personne qui a vraiment été déterminante dans le chemin qui a été le tien, justement, d'apprentissage, d'expérimentation de ta voix, des sonorités, des pratiques vocales que tu développes. Mais c'est aussi le cas pour les suffragettes ou les suffragistes dont on a parlé, notamment pour les premiers pas, les premiers rudiments du jujitsu, avec la figure de Edith Garud, qui est cette femme absolument merveilleuse, qui était une grande praticienne du jujitsu, qui avait repris justement un lieu de pratique et de transmission du jujitsu avec son époux, et qui est celle qui est la première à enseigner justement les premiers gestes, les premières techniques, les premières stratégies justement de résistance et de défense aux suffragettes. Est-ce que, moi j'aimerais bien t'entendre un petit peu justement sur la particularité de ces transmissions, au moment même où justement on vient d'entendre plusieurs témoignages de ce temps de workshop en commun, et puis de ce que ça a mis en œuvre pour, en tout cas, Garance, Idriss et Jeanne, dans leur rapport aussi de médiation performée.
En effet, la notion de transmission, elle est centrale dans la pratique, elle est même au cœur de certains projets. Notamment, tout à l'heure, on écoutera un extrait d'Animal Mimesis. Ici, c'est tout un projet que j'ai réalisé en 2016 lors d'une résidence à La Boxe, à Bourges, qui a la particularité d'être au sein de l'École nationale d'art de Bourges. Et donc, il s'agissait ici de s'intéresser à comment se transmet ce qu'on appelle la parole d'artiste, c'est-à-dire une parole qui est censée être éminemment intime, subjective, qui aurait un regard très intime porté sur le monde, finalement aussi, et même là ce que je suis en train de faire comme exercice, finalement rentre dans ce que peut-être ce que tu disais, Idriss, sur le fait que de l'extérieur mon travail peut paraître complexe, alors que quand on est dedans, finalement c'est quelque chose qui est assez accessible. Mais c'est vrai que toute la parole qui l'enrobe parfois peut créer une sorte de, comment dire, d'exclusion pour ceux et celles qui essayent de la comprendre, de se l'approprier, donc notamment les étudiants en art. Et donc, elle appartient, cette parole d'artiste, malgré elle, à un langage commun éminemment construit. C'est un sort de jargon socio-professionnel à notre sauce, mais quand même. Et donc, l'école d'art, évidemment, occupe une place privilégiée dans la transmission de cette parole-là. Et donc, pendant Animal Mimesis, durant le projet, j'étais à la rencontre d'une trentaine d'étudiantes, de professeurs, de jeunes diplômés et jeunes artistes, avec qui j'avais réalisé de longs entretiens. Et ensuite, j'ai réalisé une pièce sonore qui, justement, s'intéresse à ce qui fait signe, à ce qui va faire communauté d'autres manières de parler, donc il ne reste du langage pratiquement que les signes. Et j'avais rapproché ça, donc, notamment de l'intelligence mimétique, l'intelligence collective qu'on peut voir sur certains type d'animaux, je pensais notamment aux bancs de poissons ou aux essaims d'abeilles. Donc on écoutera tout à l'heure un extrait d'Animal Mimesis, donc sur cette question de la transmission, non pas de manière verticale, mais horizontale. Je pense que la transmission, elle se fait dans tous les sens, à tout moment. Donc je suis extrêmement reconnaissante envers un certain nombre de personnes et beaucoup de femmes, aussi toutes les femmes artistes qui pendant des décennies, des siècles ont lutté pour qu'aujourd'hui, pour nous, en tant que... Car bon, moi je suis plus jeune artiste, maintenant je vais bientôt basculer dans là où il n'y a plus de bourse et plus de 35 ans, ça commence à être un peu plus chaud. Mais en tout cas, disons que moi je suis arrivée sur le marché de l'art, j'avais tout de suite une place. Et ça, c'est le fruit de lutte avant nous. Et je me sens très héritière de certaines artistes qui ont lutté, et puis en particulier d'artistes dont je me suis nourrie, notamment, bon, évidemment, Meredith Monk, mais Vera Molnar aussi, par exemple, ou Gina Pan. Qui peuplent mon imaginaire, ou encore Nina Hagen, pour ne citer qu'elles, parce qu'elles sont nombreuses. Et dans les femmes dont je me sens très héritière, il y a Martina Catella, entre autres, qui a été en effet une transmetteuse, c'est une pédagogue incroyable qui a l'école les Globetrotters, donc le nom est un peu 80s, mais sa manière de faire est très intéressante, où en fait, c'est une accoucheuse de voix, elle nous accueille, elle nous fait passer par des chants de différents type de répertoire dans le monde. Moi, tout de suite, bon, ayant étudié beaucoup la musique du sud de l'Italie et aussi la musique bulgare, c'est par ce biais-là qu'elle m'a formée à une hygiène vocale. Donc, je lui dois beaucoup, mais en fait, je crois qu'on doit tous et toutes à nos enseignants. Ça me fait penser aussi à ce qui se passe aux Beaux-Arts. Comment un enseignant, l'atelier d'un artiste, va créer aussi déjà une manière de rentrer dans le matériau, mais aussi une famille. En fait, des compagnonnages qui vont aussi durer sur toute la vie. Parce que vous, aujourd'hui, vous êtes encore étudiante, mais vous reparlerez de Cléa et Nathalie, je pense, avec tendresse d'ici 20 ans. Donc voilà, un petit clin d'œil à tous ces transmetteuses et transmetteurs parfois invisibilisés qui nous font. Et après, donc, la particularité, en effet, de la transmission de chants dits traditionnels. Et là, je parlerai de cas typiques. C'est-à-dire que pendant 10 ans, mon métier, c'était chanteuse de chants yiddish et j'étais aussi accordéoniste. Et en fait, beaucoup de chanteuses et chanteurs m'ont transmis des chants qui ne sont pas forcément écrits, qui se transmettent qu'au sein des familles et de la communauté. Et pour moi, ça a été des cadeaux. Ça a été aussi surtout des gages de confiance. C'est-à-dire que un peuple comme le peuple ashkénaze qui a subi tous les génocides, les pogroms qu'on connaît, avec la Shoah notamment, et qui est une culture qui se transmet. En tout cas, les chants yiddish, c'est souvent des chants du quotidien qui étaient beaucoup chantés par des travailleurs, travailleuses, par des mamans, etc. C'est vraiment une langue du quotidien. Donc, c'est vraiment un gage de confiance que de le me transmettre. Et donc, ça implique, je crois, une responsabilisation. De la même manière que lorsque Sarah Aynak, qui est une chanteuse sami, me transmet un yoik avec tout ce qu'on connaît de l'histoire sami, c'est-à-dire les samis, c'est le peuple autochtone de la Scandinavie. Ils étaient d'abord là, c'est un peu la même histoire que les natifs en Amérique. Ils étaient là et puis les Occidentaux, donc les Scandinaves, sont arrivés, les ont colonisés, évangélisés, repoussés de plus en plus vers le nord. Et c'est une culture à la base qui ne passe que par l'oralité. Il y a peu, enfin, à la toute base. Et donc, le patrimoine oral que représente le chant, c'est carrément... Moi, la première fois que j'ai rencontré un artiste sami, Yoar Nango, qui d'ailleurs était cette année à la Biennale d'architecture, sa première remarque, c'est « Qu'est-ce que tu viens faire là, petite fille de Napoléon ?» Et ça, c'était en 2017. Et je le remercie parce que ça a été mon entrée, justement, sur une vaste recherche de me dire « Mais oui, mais putain, mais qu'est-ce que je viens de faire là, quoi ? Qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que je fais malgré moi ?» Et forcément, ça a été vraiment là, tout à coup, une politisation encore plus forte de ma pratique de chanteuse. Et donc, quand Sarah Aynak, quelques mois plus tard, me transmet des yoiks, donc qui sont des chants samis, pour moi, ça a été un gage de confiance énorme. Et évidemment, je ne les ai jamais rechantés. Je les connais, mais je ne les ai jamais rechantés en public parce que je ne m'en sens pas la légitimité. Et pour moi, c'est une responsabilisation de les connaître vis-à-vis de la communauté. Et dans le cas des chants yiddish, en tout cas, c'était une responsabilité au sein même de la communauté qui, au bout de 10 ans, m'a adoptée aussi. Donc on retrouve en fait cette responsabilisation et ce compagnonnage par la transmission au sein des arts martiaux. J'ai fait tout un travail de recherche avec Nidam Radawi, qui est un ami et qui est champion du monde de Kwenkido, et en fait il m'a fait l'honneur de me transmettre des Kwen, qui sont l'équivalent des kata au karaté, c'est-à-dire des combats solo qu'on apprend pour se parer, comme en escrime, des bottes en fait, pour se parer à l'éventuel combat. Et ces Kwen, c'est des Kwen secrets. On ne les trouve pas sur YouTube. Ils se transmettent qu'à l'intérieur de certaines réunions de pratiquants du Kwenkido. Et c'est des Kwen en fait, qui sont là, en l'occurrence, en lien avec des animaux. La grue, la mante religieuse, le tigre et le singe. Et là aussi, je me suis dit... donc, ils sont d'ailleurs réinvestis aussi dans Dojo Sisters. Ils sont traduits vocalement. Mais je me suis dit, quelle chance et quel honneur me fait Nidam de me faire suffisamment confiance vis-à-vis... de cette transmission. Tout ça pour dire que la transmission, pour moi, elle est éminemment politique et elle demande beaucoup d'attention et de délicatesse, notamment dans des cultures orales qui ont été souvent récupérées, notamment par l'anthropologie, hein, entre autres par les sciences humaines occidentales. Voilà.
Pour approfondir un petit peu ce que tu viens de mentionner, c'est-à-dire aussi ces sources, ces ressources qui sont... écarté, on va écouter un petit extrait de la pièce Animal Mimesis qui va nous permettre justement de mieux comprendre tout ce que tu viens de dire.
Ben c'est en fait, c'est pas une pratique, c'est des pratiques. Donc elles sont vraiment diversifiées et elles se sont depuis maintenant assez longtemps, elles ont toutes un statut d'équivalence. Enfin, il n'y a pas vraiment de hiérarchie, assez horizontale. Entre, disons, une pratique,
je dirais pas paralittéraire, mais pas exactement la littérature, et qui, dans le champ de l'art contemporain, sont un petit peu différentes de ce que pourrait être la poésie concrète ou toute une tradition d'artistes qui font de l'écriture, que ce soit Heidsieck ou Chopin, des gens qui ont vraiment travaillé sur le même
une
des
question
questions.
Qui a énormément bougé ces dernières années, puisque les artistes s'en sont emparés, donc c'est une
forme un peu particulière. C'était sur une clé USB, donc dans un fichier PDF. Donc en fait, j'ai enchevêtré plusieurs ready-made, et donc ça prenait une forme de
brutiste,
diagramme.
C'est-à-dire qu'il y a aussi des et aussi sous une forme
qui s'inspirait des souvenirs que j'avais de l'expo sur Franck Guéric, sculpter la forme
en forme ou en forme
très
d'ailleurs.
Organique.
Mais la forme me plaisait, et c'est quelque chose d'avoir juste cette ligne noire dans
de l'espace.
Que je trouvais...
Là, pour ce projet-là, je voulais vraiment essayer de convoquer une espèce d'esthétique muséale. Du coup, ce travail d'installation-là, mise en espace...
Elle fonctionne. Enfin, elle est pensée au moment où il faut montrer les
pièces sous forme d'archives, mais les archives sont à nouveau réactivées comme extension des
pièces que j'ai pu nommer comme
pièces, autant que ce que ça raconte soit plus intéressant que chaque pièce.
Pièce un peu conceptuelle en fait, c'est-à-dire que c'est à la fois
réaliser donc la pièce,
produire des pièces,
subir mes pièces,
créer des pièces,
titrer mes pièces,
parler d'une pièce,
faire une pièce dans laquelle il y a des savoir-faire qui sont présents, de la représentation du monde du travail. Je me suis beaucoup intéressée
pour mettre en situation des situations de parole, je dirais entravées ou empêchées. Donc ce dédoublement m'intéresse.
Et du coup, en travaillant des médiums comme le dessin, comme la sérigraphie,
vidéo, la peinture, du dessin, de la sculpture,
les vidéos, son et photographique,
iconographique, textuel. Sonore,
comme l'impression 3D. Enfin voilà, en ce moment je travaille
à faire du travail
plastique, mais j'en fais pas un travail.
Travail plus lié à ce que j'appelle un travail
de
plus
sculpture.
Intime, qui ne se veut pas se connecter à
d'idées prédéfinies.
Travail intéressant parce que
je travaille à partir de la représentation.
Enfin sur ce travail-là. En tout cas.
Et du coup par rapport à mon travail,
en fait,
qu'on mettra forcément
en mon travail,
avec qui je pourrais rapprocher mon
travail.
Alors mon travail
qui nourrirait mon travail.
Mon travail, mais.
Alors, on vient d'écouter justement un extrait d'Animal Mimesis qui nous a permis de mieux saisir, entre guillemets, la façon dont toi, tu mets en œuvre ces sources, ces ressources entre elles, comment tu les combines, comment tu parviens, après cette étape justement de transmission, à les agencer. Et ça m'a souvent marqué au regard de différentes performances où j'avais pu avoir la chance de te voir, ou de différentes œuvres de ton travail, la façon justement où tu vas chercher des sources, des ressources qui sont souvent écartées, mises de côté, peu valorisé. Tu en parlais tout à l'heure, hein, tu parlais notamment des transmissions orales, en fait, de certaines pratiques culturelles, de certaines sources. Je pense aussi ici aux solidarités informelles, à ces pratiques vernaculaires, etc. Et tu parviens à les combiner entre elles sous la forme de ce que toi, tu as appelé, c'est quelque chose que j'ai lu, en fait, dans un entretien, des points de jonction. Et comment est-ce que tu sens, justement, que ces appariements, ces associations sont justes ? C'est-à-dire que tu mobilises plusieurs sources. Idriss en parlait tout à l'heure, ça peut être un peu impressionnant comme ça quand on voit un peu un pitch de certaines œuvres. Et pourtant, tout s'agence de façon précise, juste et fluide. Donc, à quel moment est-ce que toi, tu sens justement que ces associations, ces appariements sont justes, qu'ils parlent et qu'ils disent quelque chose, justement ?
Donc, en effet, mon travail, il naît forcément d'associations entre des éléments qui sont a priori disparates. Et c'est par leur association qu'il y a une forme un peu inouïe qui se crée. Et là, je répondrai à ta question en parlant de Crab Chorus, qui est un projet auquel je tiens beaucoup, qui a été réalisé donc à l'Institut Bergonié à Bordeaux, qui est un institut de cancérologie, sur une invitation de Vanessa Desclos, justement. Et donc pendant un an, j'ai fait des ateliers de parole avec des patientes ou d'anciennes patientes sur, en fait, on essayait de trouver dans nos paroles ce qui faisait la singularité d'une expérience et en même temps ce qui nous reliait entre nous. Et ça rejoint aussi ce dont j'ai parlé d'autres choses avant, c'est-à-dire comment on intériorise certaines violences. Et finalement, c'est une violence structurelle puisqu'on ressent toutes, on ressentait toutes plus ou moins... à des moments donnés de la cure ou dans l'après-cancer, les mêmes choses. Et donc ici, j'ai croisé ces témoignages-là avec un désir de fictionnalisation aussi, de fiction. J'ai créé à ce moment-là donc, un personnage, un avatar également, une sorte de prêtresse crabe, parce que le crabe, donc, en lien, on appelle le cancer le crabe. Et le crabe, c'est un animal passionnant de par sa gestuelle, de par ses couleurs, sa matérialité, mais aussi sa mutation. C'est un animal comme le serpent, il mue. Donc ça m'intéressait aussi beaucoup, cette idée de transformation. Et donc, ce personnage évolue pendant une journée à l'Institut Bergonié sous une forme de performance déambulatoire et marque des arrêts dans des espaces communs de l'hôpital où elle va restituer donc, les paroles, nos paroles, narratives, émotionnelles, relationnelles. Et donc dans des endroits qui sont a priori neutralisés, enfin qui sont souvent neutralisés de par l'architecture, les couleurs, les protocoles en cours. Et donc là, on voit que l'association à la fois donc, de paroles, de la figure du crabe et aussi d'une volonté de questionner justement cette dichotomie qu'on fait, ce dualisme qu'on crée entre la science et la sorcellerie ou bien comment le soin est séparé du spirituel. Ici, c'était une manière d'y répondre. Et donc, je vais juste lire un extrait de texte par rapport à Crab Chorus, voilà. Sur l'entourage des malades. Y elles sont, extraordinaires, attentionnées, accompagnants, toujours présents, soutenants, bienveillants, à l'écoute, délicats, drôles. Y elles sont, insoupçonnées, décontenancées, anesthésiées, terrorisées, non concernées, trop concernées, paniquées, pétrifiées, impactées. Nous devons annoncer, informer, consoler, protéger. Nous protéger des tabous, des non-dits, des secrets de famille. Nous protéger des clichés, des pitiés, de la condescendance. Nous protéger des hontes, des dénis, des maladresses et des peurs. Nous protéger des transferts, des histoires, des fantasmes et des mythes. Elle n'est ni courageuse, ni résiliente, ni battante, ni forte. Elle fait face. Je ne suis ni contagieuse, ni fautive, ni maudite, ni mère, vierge ou putain. Je fais face. Nous ne sommes ni comme avant, ni comme après, ni guérie, ni morte. Nous faisons face.
Merci Violaine de nous avoir offert cette lecture de Crab Chorus et de la puissance des mots qui résonnent juste après t'avoir entendu. Je m'excuse, c'est difficile de reprendre la parole et de reprendre un fil alors qu'il y a un moment comme ça dense, marquant et puissant. Tu es assez touchée par le fait de t'avoir entendu, donc désolée si je perds un petit peu mes mots. Moi, je voulais revenir aussi sur la façon dont tu as pu assembler, agencer les choses, justement, dans le cadre de l'exposition à l'espace Camille Lambert. Et puis, c'est aussi ce qui était perceptible, sensible dans l'expo au sample, dans Peupler les plis, que vous avez préparé ensemble avec beaucoup de soin et d'attention. C'est cette façon de réunir des pratiques suffragistes de jujitsu, des jeux de plateau, des pratiques de karaté, des pratiques amateurs, donc des régimes aussi de corporalité qui sont différents et qui s'assemblent ensemble. Et puis m'est venue cette image de ce qu'on appelle les stromates, alors qui est vraiment un mot un peu poussiéreux, mais le jour où je l'ai découvert, c'était comme un petit bonbon pour moi. Les stromates, c'est souvent, en fait, c'est un ensemble de citations, de sources, et puis on l'emmène avec soi pour avoir l'air un peu intelligent et sembler assez malin en bonne société. Mais ce qui m'intéresse dans ce mot, c'est que le mot vient en fait des tapis, l'étymologie, hein, c'est ça, la stromaturgie, c'est la science des tapis, et les superpositions de tapis, de couvertures. Et en fait, quand on pense aux stromates comme ça, c'est justement ce dont on vient se draper, ce qui vient protéger, ce qui vient soutenir et ce qui vient se superposer comme des couches successives. Et ça m'a fait penser justement à la façon dont ces couches successives, ces tapis, ces couvertures apparaissent régulièrement visuellement aussi dans ton travail, et le fait que tu sembles te couvrir de tous ces éléments-là et que tu en fasses un petit bagage. Comment est-ce que tu as construit cet assemblage en particulier justement? Alors, tu en as parlé déjà, tu as parlé des prémices depuis tout à l'heure, notamment de cette invitation autour des Jeux Olympiques, qui est étrangement, pas vraiment quand on voit l'esprit du temps, mais étrangement quelque chose qui vous a réuni dans les préparations de vos expositions respectives, hein, c'est-à-dire qu'il y a des commandes comme ça très, très orientées, et je pense qu'on en aura encore ce même genre de type de commandes pour... il y aura une queue de comète, je pense, aux Jeux Olympiques par la suite. Mais comment est-ce que toi, tu as pensé cet assemblage spécifique pour justement Dojo, Dojo Sisters et Dojo Tellers aussi?
Bah, en effet, je pense que là-dessus, on est pas mal revenu. Mais ce qui m'intéresse dans ta question, c'est justement le fait que tu dises que je me couvre ces dernières années d'éléments. C'est ce dont tu parles sur le stromate m'intéresse beaucoup. Et c'est vrai que ces dernières années, j'ai composé un certain nombre d'éléments, que ce soit des maquillages, des costumes, des accessoires de performance, avec lesquels je viens de me couvrir de dessins, écriture. Donc par rapport à Crab Chorus, dont je viens de parler... Au fur et à mesure, par exemple, de la performance, je viens écrire le texte que je dis. Et donc, ça, en m'inspirant de planches scientifiques, de biopsie. Et donc, mon corps à la mute aussi tout le long. Et à la fin, donc, est couvert d'écriture. Et donc, c'est toute une réflexion sur, évidemment, l'empreinte du traumatisme, sur le devenir, la mutation, et aussi comment on devient la parole. Là... par exemple, sur un projet comme Battle aussi, où il y avait des accessoires avec l'écriture, le dérochage qui était écrit sur les accessoires manipulés par les performeurs, ou sur Ho-Ho, qui est un projet en duo avec Marsak Beffa, qui a été réalisé l'an dernier entre Ouida et Bordeaux. Sur, en fait, Ho-Ho, ça porte sur la figure gemellaire des Ho-Ho, des jumeaux, au sein du Panthéon Vaudou. Et c'était ici d'explorer la manière dont il s'agissait en fait de repenser nos relations France-Bénin à l'intérieur de cette figure en fait des Ho-Ho qui au Bénin vient apaiser les tensions au sein des familles. Et donc dans ce cadre-là, j'ai réalisé l'installation sonore Ho-Ho où j'ai été collecter en fait des paroles à Ouida et à Bordeaux où je demandais aux gens de parler de la relation affective qu'ils avaient à l'histoire de la traite négrière. Et donc, évidemment, il y a un investissement lorsqu'on collecte ce genre de paroles et lorsqu'on traite de tels sujets qui fait qu'on en vient d'être hanté, en fait, par les paroles. Et en plus, qui va avec un processus de travail chez moi qui est très long, puisqu'il y a toute cette phase de recherche théorique, puis de recherche de collecte de paroles, et ensuite de dérochage. Donc, dans le dérochage, je réécris tout. Et j'ai besoin pour mémoriser, pour organiser ma pensée, puis ensuite de recomposition au sein d'une pièce sonore et très souvent de remise en bouche par la performance. Tout ça pour dire que de porter un costume, en l'occurrence les costumes de Ho-Ho, qui était cette installation sonore, c'était deux silhouettes sur lesquelles il y avait des costumes qui reprenaient en fait l'esthétique des masques Egongon, donc les masques des revenants au Bénin, et sur lesquels était retranscrit l'intégralité des échanges que j'avais eus avec les personnes. Et la tête de ces silhouettes était une enceinte par laquelle était diffusée donc, la pièce sonore réalisée avec la parole des personnes qui parlaient de leur relation affective à la traite négrière. Et donc dans la performance, dans une des performances avec Marcel, on revêt ces costumes. Et c'est vraiment une réflexion sur la manière dont on devient la parole. Parce que en fait, moi j'en rêve la nuit des paroles que je collecte. Elles me hantent, parfois j'ai des hallucinations en fait, auditives où j'ai l'impression d'entendre une voix que j'ai enregistrée. Je suis hypersensible évidemment aux voix. Mais disons que cette manière de porter ce que tu dis, hein, le stromate, c'est vraiment pour moi ces dernières années une manière de donner une plasticité à la voix et à la parole et de faire sortir la partition et la retranscription du papier pour l'amener vers quelque chose qui soit plus proche du costume, du maquillage et une réflexion sur justement comment on est impacté par ces échanges.
Moi, je te propose qu'on écoute un passage de l'extrait de Oldchild.
Oldchild, juste pour que l'auditeur sache de quoi il s'agit, c'est une installation sonore qui, là, donne à entendre des paroles de personnes qui n'ont pas pu être parents ou qui n'ont pas voulu être parents, que j'ai réalisé et qui, là, tout comme Crab Chorus, questionne en fait une situation difficile à vivre en créant ces groupes de parole avec des personnes qui n'étaient pas parentes, qui n'ont pas pu pour la plupart être parentes. Disons que 90% des gens qui n'ont pas d'enfants, de ma génération et des générations antérieures, c'est pour des questions politiques, parce qu'elles appartiennent à des minorités qui sont liées à leurs origines ethniques, à leur orientation sexuelle, à leur traumatisme de vie, ou bien des problèmes de santé, des problèmes de handicap parfois, ou d'éloignement géographique par rapport au lieu de soins en lien avec la parentalité. Donc Oldchild, ça donne à entendre cette chorale et ces paroles, elles aussi silenciées.
Ouais. Ben, en tout cas,
c'était viscéral.
Je sais pas comment dire. En fait, c'est extrêmement physique, quoi. C'est vraiment...
Presque physique, ou je sais pas comment on donne ça. Où il y avait vraiment dans mon corps une sorte de besoin.
C'est mon besoin pressant.
Vraiment, j'ai envie.
Bah, ça me prend un peu les tripes, quoi. Ça, j'ai limite envie de chialer, quoi.
Moi, ça me dégoûte, quoi.
Tu vois, je j'adore le son, l'odeur.
Il me fait vraiment horreur, absolument. C'est
ça peut penser à Alien,
quoi. De fusion.
D'amour, de désir, de tous ces délices de corps, de sexe, de jouissance,
de même presque hormonal. Je me suis quand même... C'était assez bizarre comme sensation.
Je me rappelle de la sensation.
Ce que vous ressentez, c'est de toute façon, ça n'a pas de genre.
Je peux le ressentir très ponctuellement.
Bah, je le ressens toujours, hein. C'est-à-dire que...
Fallait pas trop que ça traîne.
Pas tarder.
Que je me maille.
Il y a 2-3 ans, mais mal.
Ça me paraît demain. Et ça me
C'était déjà trop tard, de toute façon.
C'est pris trop tard.
Déjà trop vieux.
C'est plus possible.
Et là, tu fais « Ah bon, mais j'ai pas compris. »
T'es trop vieille. T'as raté le truc.
D'avoir la voilà. Sensation qu'il me restait 5 ans pour me décider, hein, autour de 35 ans. 35
34
35.
À 35 ans, j'ai fait une vitrification de mes ovocytes.
À 38 ans, j'ai avorté en 2018.
Dans les années 90.
J'avais 38 ans.
Une intervention volontaire de grossesse. Mmh.
Et puis à 39 ans,
je me suis séparé il y a 2 ans.
Et je tombais enceinte au bout de 3 mois.
À 39 ans.
Et je l'ai perdu 2 mois et demi après.
Et voilà, et donc après cette histoire, j'avais vite 40 ans.
40 ans.
Quand t'approches des 40 ans, tu poses
à 40 ans,
différemment, parce que je me rends
d'autres questions aussi.
Et en même temps, elle se pose parce que j'arrive sur mes 40 ans, je ne vais pas être un vieux papa de 50 ans.
Là, c'est où 50 ans.
J'approche de la cinquantaine. Et...
La femme que j'ai, elle a 42
ans.
42 ans.
J'ai hâte. J'ai peut-être ménopausé en fait. C'est tôt, 42 ans.
Ménopause précoce.
41.
J'ai une tumeur bénigne, mais j'ai
de l'endométriose.
Un fibrome dans l'utérus, donc du coup...
Ça a été empêché par un cancer gynécologique de ma compagne.
La qualité du sperme qui est très dégradée.
À cause d'une varicocèle.
Difficile.
Et face à une réalité que t'avais pas envisagée, et puis
j'en souffre en fait.
Ça fait vraiment intérieurement, ça me fait mal, mais...
La douleur à des moments, mais j'avais envie de mourir, j'ai vraiment à des moments pensé au suicide.
Non, vraiment présent tout le temps.
Mais moi, c'est le sort que Dieu m'a réservé, je ne peux pas me suicider à cause de ça.
Mais ça, intérieurement, ça me fait mal.
Le deuil est hyper difficile.
De toute façon, ça sera jamais complètement réglé, cette histoire.
C'est ça, dans mon cœur.
J'y crois même.
Des fois, on pleut, mais on dit, mais pourquoi moi?
C'est toujours la question du « et si ?»
Oui, ça fait penser à un membre fantôme, des gens qui ont perdu un membre et qui ont toujours une douleur à l'endroit du membre qu'ils ont perdu.
On vient d'entendre un extrait de cette œuvre « Oh Child » qui résulte d'un temps long aussi de présence. Tu l'as présenté en quelques mots juste avant qu'on puisse entendre l'extrait sonore pour nous accompagner en fait dans cette découverte et puis avoir quelques éléments de contexte. Moi, j'aimerais peut-être que tu reviennes un tout petit peu sur Oh Child pour qu'on ait un petit moment pour déplier aussi un petit peu ce qu'on vient d'entendre, ces couches de voix, ces stromates d'expériences aussi qui se sont assemblées et dont tu nous as offert l'écoute à l'instant. Donc peut-être que tu reviennes un petit peu là-dessus, sur la manière dont, en fait, c'est... ces expériences vécues de façon corporelle, ces corporéités de l'expérience, c'est pas très heureux, mais ces corporéités de l'expérience ont des échos, laissent des traces, nous hantent aussi et ont des échos pérennes. Ce qui fait écho aussi avec ce que tu disais juste avant dans ta réponse à ma question autour des stromates.
Je peux dire le contexte dans lequel ça a été fait, où en fait d'habitude pour créer justement, parce que là on en arrive peut-être dans la première partie de la pièce Oh Child, donc qui en fait est une installation sonore qui a été présentée lors de l'exposition 1987 à la galerie Do Yuang Li en mars 2023. Ce qu'on vient d'entendre en fait, c'était diffusé, spatialisé sur 8 enceintes qui étaient à l'intérieur de coiffes. De coiffes qui étaient activées aussi lors d'une performance d'ouverture au vernissage. Et sur ces coiffes, il y avait une retranscription de l'intégralité de nos échanges. Et les personnes qu'on a entendues, ce sont des personnes que je connais plus ou moins, puisque ou avec qui j'ai été mise en relation, et tous les entretiens qu'on a eus se sont faits par visioconférence, parce que j'étais à l'époque au Bénin. Et la visioconférence, c'est quelque chose qui fait partie des dispositifs justement de captation de ces paroles, ce qu'on entend, elles sont extrêmement intimes, extrêmement impliquées, et c'est comment justement créer un confort, un dispositif d'écoute pour que les personnes se sentent suffisamment à l'aise pour livrer ce qui les hante, ce qui les habite. Donc le plus souvent, là, ça s'est fait par visio pour des raisons d'éloignement géographique. Ça a pu être le cas aussi sur d'autres projets à cause du confinement ou à cause aussi quand j'ai travaillé avec des jeunes du lycée français de Pékin avec le palais de Tokyo parce que c'était géographiquement très éloigné. Mais le plus souvent, c'est vrai que je vais aller à la rencontre des personnes avec un espèce de studio mobile, de Zoom. Donc c'est un dispositif où je vais toujours aller, moi, dans les lieux où habitent les personnes, à leur rencontre. Je les amène jamais dans un studio. Avec ce Zoom et ce micro, je vais les rencontrer dans un premier temps, puis dans un second temps, les isoler dans une pièce pour des raisons sonores, mais aussi d'intimité. Et à ce moment-là, donc, le dispositif Zoom-micro va permettre quelque chose d'assez intéressant, où à la fois, ça permet une grande intimité, il y a comme un cordon entre nous, puisque je tends le micro, qui est d'ailleurs avec son fil XLR qui rentre dans le Zoom, et en même temps, va créer une juste distance, parce que ça met aussi la personne à distance d'avoir un casque sur les oreilles et un micro. Donc ce dispositif-là permet souvent d'obtenir, comme on l'a entendu sur Battle, des choses de l'ordre vraiment de la confession profonde, alors que finalement, très souvent, je ne vois les personnes qu'une fois. Mais la rencontre va parfois durer plusieurs heures. Donc c'est comme ça qu'on obtient des paroles aussi intimes, en tout cas. Voilà ce que je pourrais dire de plus sur O Child.
Et là, ça nous permet de saisir de quelle façon ces paroles sont présentes aussi pour nous lors des temps de diffusion des œuvres, donc que ce soit lors des temps de performance ou lors de temps d'exposition dont tu viens de parler. Et souvent, on a aussi résumé un peu rapidement ton travail justement à cette dimension uniquement sonore, comme si c'était finalement ce qui primait, ce qui le caractérisait et ce qui en faisait la spécificité, alors que la dimension visuelle est également extrêmement importante, notamment dans les propositions performatives, dans les propositions performatives de groupe, dans la façon dont tu proposes aussi une apparition. Et j'aurais aimé t'entendre sur la façon dont, alors qu'on a l'impression de comprendre ce qu'on a sous les yeux, de saisir ce que l'on voit, finalement tu parviens à mettre aussi une résistance à ce que les corps puissent être lus. En fait, tu nous interdis de façon assez subtile, parce que c'est jamais frontal, c'est jamais au premier abord, on a l'impression qu'on sait très bien où on est, qu'on comprend tout ce qui se passe, mais malgré tout tu nous interdis cette lisibilité qui serait aussi une catégorisation, qui serait aussi une manière assez typologique en fait de présenter les choses. Et pourquoi est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi, ou pourquoi est-ce que nous on a une difficulté à lire justement ces corps de façon évidente?
Bah, déjà parce que comme on l'a entendu avec O Child, c'est la réunion en fait déjà d'un collectif qui s'ignore, puisque les personnes que j'ai interrogées, qu'elles soient hommes, femmes, trans, en fait, ignoraient qu'elles avaient... En fait, on ne pense jamais la non-parentalité comme un lien, par exemple. Donc le travail va créer déjà un collectif. Et après, donc, le trouble, il est aussi présent dans la forme qui est impure, comme tu le disais, qui va appartenir aux arts visuels, mais qui va avoir recours aussi à la poésie sonore, qui va aller piocher aussi du côté du cabaret, de la chorégraphie et de cette impureté disciplinaire, elle échappe aussi à une catégorisation. Donc c'est assez difficile à lire au premier abord, ça demande un temps. Et ça échappe, je pense, à une des déficiences qui est très présente à notre époque, extrêmement libérale, où il faudrait une image Instagram, on a tout compris. Et c'est vrai que ça joue des tours à mon travail, parce qu'en fait, si on ne prend pas le temps de s'immerger, on passe à côté. Et donc il y a quelque chose qui est peut-être moins efficace que d'autres travaux qui sont plus montrés en ce moment. Et je pense que ce trouble permet d'embrasser la complexité, donc comme ce que je disais sur la dissonance, de pas être dans la résolution, mais de rester dans l'expérience du double et du balbutiement.
Et justement, pour revenir sur cette idée de non-résolution ou de non-efficacité, il y a cette dimension d'opacité qui est également présente dans ton travail et qui, à mon sens, résonne avec ce dont on a pu parler auparavant, c'est-à-dire aussi la matérialité très spécifique des décors tels que tu la mets en œuvre. Je disais que pourtant il y a des éléments visuels extrêmement présents, il y a des images ou des imagos qui sont présents à nos yeux aussi quand on découvre ton travail, et notamment l'exposition à l'espace Camille Lambert. Mais malgré tout, il y a quelque chose de l'ordre de l'ineffable ou d'une dimension spectrale. On a beaucoup parlé de hantise, d'éléments qui pouvaient nous hanter. Mais il me semble que cette dimension spectrale est présente dans ce travail et dans plusieurs de tes travaux. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que c'est quelque chose qui résonne avec la façon dont toi tu envisages et tu construis ton travail?
Oui, complètement. Enfin, déjà par le fait, comme je le disais, dans O Child, où il y a la présence de ces coiffes auquel il manque les corps sont absents, donc on n'entend que les voix. Donc la voix, les installations sonores, je pense, convoquent tout de suite le spectre. Et ensuite dans Ho-Ho, où il y a justement des costumes de Egongon qui sont posés sur deux enceintes, où il y a ces sons qui parviennent, donc évidemment la question de qui est la voix et comment ces voix font collectif et deviennent, enfin voilà, tout de suite se pose cette question du spectre au sein des installations sonores. Et après, la question de l'ineffable dans le travail, elle est évidemment en permanence présente, puisque je dirais que je m'intéresse en permanence à ce qui se joue dessous la langue, à, pour reprendre là aussi un terme psychanalytique, à l'inconscient de la langue, et j'y tiens. Et comme on a pu le voir dans Animal Mimesis, ça peut être des phénomènes de domination. Ce qui se joue sous la langue, bah, c'est comment on va exclure l'autre. Parce que comme on le sait, seulement 30% de ce qu'on se dit, c'est lors de la communication. Les 70% restants, c'est autre chose. Donc notamment des effets de domination. Évidemment des effets affectifs, émotionnels. Donc ce dont qui c'est très présent dans des projets comme Babel Babel, où j'ai pu travailler avec des puéricultrices sur le babil de l'enfant. Donc c'est vraiment comment on arrive à communiquer dans l'émotion, ce qui n'est pas articulable. Et puis aussi ce qui hante la langue, le secret, le traumatisme avec Battle. Et je pense qu'ici, les figures que j'invoque, donc par exemple Crabbe Chorus, cette prêtresse Crabbe, elles vont venir traduire ces secrets, elles vont venir les révéler et en tout cas les transformer. Et en ça, il y a aussi quelque chose qui est considéré par la culture occidentale moderne comme occulte dans le travail, par l'invocation de médiums, par exemple avec Madame V, avec Amour, Tonnerre, Femme Hérisson, de la guérisseuse dans Crabbe Chorus et Battle, de la pleureuse dans Omidje, qui est un trio avec un chanteur béninois et le bassiste nigérian Oluwatosim Oye, et puis beaucoup d'invocations de figures mythologiques hybrides, notamment la figure de la sirène dans W Song, dans Aoid, dans 8 Feet Dance, et tous ces rôles, d'ailleurs incarnés souvent par des figures féminines, sont des rôles d'interaction avec l'ineffable, avec une sorte de monde au-delà du monde du secret, qui peut être vu, on le nomme comme on l'entend, mais en tout cas qui vont donner aussi, qui vont avoir un rôle social de rendre, de sociabiliser ce qui est de l'ordre de l'incompréhensible ou de l'indicible, que ce soit l'accident, la maladie, la mort, la chance. Tout à coup, elles vont venir leur donner une place particulière, créer un lien avec l'au-delà et échapper aussi au régime de compréhension patriarcaux. Et ces invocations de ces figures particulières, je les dois beaucoup à mon passage par la musique traditionnelle, puisque lorsque tu vas te mettre en bouche une malédiction, une prière, un chant de guérison, en fait, ce que je disais aussi sur le jeu, c'est-à-dire tu peux pas faire ça à moitié. Tu vas devoir te plonger dans la culture. Tu vas devoir souvent apprendre la langue et tu vas devenir toi-même la maudite. Tu vas devenir toi-même celle qui maudit. Tu vas devenir toi-même celle qui guérit. Et donc, le chant traditionnel, en plus, souvent, il est issu de longues traditions qui ont parfois des siècles. Et donc, quand tu te saisis, quand un chant, tu l'apprends et tu te le mets en bouche, c'est comme si moi, parfois, j'ai l'impression de saisir un fantôme. J'hérite. Je transmets même, je n'hérite pas, je suis juste une zone de transfert d'une parole qui a parfois des centaines d'années derrière moi et qui va me survivre ensuite. Donc la figure fantomatique, cette parole presque de l'ordre de l'ectoplasme, je vais aussi la convoquer quand j'improvise. Je vais essayer de retrouver cet état-là. C'est un état très particulier d'ouverture où tu vas te mettre dans cet état-là pour invoquer, pour appeler quelque chose qui te dépasse et qui peut être vu comme spectral ou fantomatique.
C'est pas une question, mais c'est plutôt un commentaire, une remarque, peut-être un peu décalée, mais je me permets de prendre la parole. Parce que sur cette question de l'ineffable et de l'aspect spectral, en fait, moi, quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans ton travail, donc tu nous parles à chaque fois, en fait, pour chaque œuvre, tu racontes une histoire. Il y a une histoire, il y a un contexte, il y a une communauté. Mais ce qui n'est peut-être pas, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas vraiment apparu dans la conversation, c'est aussi les aspects, en fait, tes méthodes de travail. Et moi, quelque chose qui m'intéresse, c'est les très nombreuses étapes à travers lesquelles tu construis chaque œuvre. Elles sont très nombreuses, elles prennent place dans différents temps et dans différents espaces, et aussi à travers différentes matérialités. Et donc, il y a des notations préparatoires que tu vas échanger avec seulement peut-être les personnes avec qui tu vas réaliser une performance plus tard, la partition qui est réalisée en aval, des supports vidéo, de la photographie, du texte. Et en fait, ça, c'est moi, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que j'ai l'impression que chaque œuvre, c'est comme si elle parlait plusieurs langues à travers ses multiples matérialités. Et qu'en fait, quand on envoie une partie, par exemple, dans l'exposition, il y avait cette partition. En fait, il y a d'autres langues, l'œuvre parle d'autres langues en même temps qu'on ne voit pas. Et c'est comme si chaque œuvre aussi avait différents spectres. Enfin, j'espère que ce n'est pas trop tiré par les cheveux, mais moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans ton travail, cette idée que quand on envoie, par exemple, quand on est face à la partition de Basai Dai, en fait, il y a plein d'autres tropes de cette œuvre-là qui parlent à d'autres moments et qu'on n'entend pas à ce moment-là. Et donc, voilà, c'était... Peut-être plus sur un aspect méthodologie de travail et puis voilà, une généralité sur vraiment les méthodes avec lesquelles tu travailles. Mais je donne tout de suite la parole à Jeanne pour la dernière question de cet entretien.
Merci Clélia.
Pour rebondir quand même sur ce qui vient d'être dit, je voulais te demander, Violaine, est-ce que mettre en avant ce qui a pu habiter, voire hanter, vu qu'on en a beaucoup parlé jusqu'ici, donc les corps et les voix des silenciers dans tes performances, est-ce que c'est un moyen finalement de lutter contre des phénomènes de gaslighting? Donc le gaslighting, pour rappel, c'est une forme de manipulation mentale qui est exercée sur les personnes dominées par les personnes dominantes. Et c'est un terme qui a été forgé à partir d'un film de George Cukor qui est sorti en 1944 et qui s'appelle Gaslight, et dans lequel en fait il y a des phénomènes de manipulation des sens d'une femme par son époux, donc il va complètement se jouer d'elle, notamment sur la lumière, voilà, d'où le titre et le terme aujourd'hui. Et aujourd'hui donc c'est un outil critique féministe qui met en exergue la violence psychologique qui est subie par les femmes. Oui, du coup, pardon, ma question c'est de demander dans tes performances, finalement, est-ce que, comment dire, habiter ces corps-là par tes performances, ça te permet de te réapproprier une forme de puissance, finalement, est-ce que ça te permet de transformer tout ce gaslighting, finalement, en quelque chose en une puissance, finalement, pour toi et pour les autres?
Je pense que c'est une très bonne question et qui conclut l'ensemble de l'entretien, dans le sens où, évidemment, la lutte et la réappropriation et le féminisme sont au cœur de ma démarche, et que, comme je le disais, je préfère au militantisme ouvert et... quelque chose qui est plus de l'ordre du dessous et du doute et du trouble plutôt qu'une affirmation militante. Et l'ineffable donc est sans doute une tactique pour échapper à une réduction et une réappropriation de certains contenus par le système dominant en place, à savoir, en l'occurrence, en ce moment, le monde libéral. Et donc voilà, toute une partie de mon travail, enfin en tout cas mon travail tente de... Mon travail, tu vois, mon travail.